les filles.
Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier et il y a 26 ans, on célébrait la mort de Salvador Dali. Mais je vais vous dire un secret, les filles. Salvador Dali n'est pas vraiment mort, puisque quand on touche à l'art, on devient un peu immortel. Bien, aujourd'hui, on a encore une fois une tonne d'articles qui seront susciter votre intérêt sur la culture et les sports. À commencer par toi, Jennifer, de quoi est-ce que tu vas nous parler?
Oui, avez-vous entendu parler de Sam Smith? Le chanteur britannique a fait sensation à Montréal cette semaine. On va en parler un petit peu plus en détail au début de cette émission. On parlera de théâtre et des névroses d'une metteur en scène avec la pièce Audition on Me, Myself and I. On parlera également cinéma avec Escobar Paradise Lost, le nouveau film sorti en salle la semaine dernière avec Benicio del Toro. Et enfin, dès ce samedi, allez voir la nouvelle exposition Spazuk à la galerie COA. On en revient un peu plus en détail en deuxième partie d'émission. Et pour terminer, on parlera Mon Show de Corinne Côté, qui est au théâtre le 26, 27 et 29 janvier et qui va nous présenter son tout premier One Man Show.
Merci Jennifer. On accueille pour la première fois à notre émission Geneviève Patterson. Bonjour.
Oui, bonjour Charles, bonjour Jennifer.
Salut. Donc, Geneviève.
Moi aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle qui est sortie ce matin dans le Journal de Montréal en collaboration avec l'agence France Presse, un recueil collectif bien particulier qui va être publié le 5 février prochain des auteurs unis pour la liberté d'expression. Je vous en dis pas plus, on en parle tout à l'heure.
Ah, j'ai déjà hâte. Et de mon côté, je vais vous parler de théâtre avec la pièce Dans la République du bonheur. Il sera question de La Chambre bleue, c'est un film au cinéma. On vous parle des sorties en cirque dans les prochains mois. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? À Sherbrooke, une exposition haute en couleurs. Je vous en dis pas plus, c'est un article fabuleux. Et finalement, à Québec, une autre exposition, celle de Gina Bouchard. C'est Marie Laliberté dans Le Devoir qui écrit ce papier, L'inflation du jeu. C'est paru le 19 janvier. Surprise au Trident. Le rideau s'ouvre en plein mois de janvier sur un Noël kitsch. Les six membres d'une famille, les deux filles, leurs parents et leurs grands-parents, y fêtent au son de Petit Papa Noël dans un décor d'été entre piscine, chaises longues et faux gazon. Alors, oubliez la famille modèle, le portrait bien vite se fissure alors que se révèlent les tensions et les véritables pensées de chacun. Matérialisme, désir de contrôle, individualisme, culte du corps, la pièce jette un regard, jette au visage mots et images, reflets et excès et des contradictions de notre temps et de sa course effrénée au bonheur individuel en un miroir déformant. Peu nouveau, toutefois, dans ce portrait satirique et caricatural où s'amalgament répétition et surenchère. Ainsi, dans cette pièce, on déroute non par son contenu, qui n'exclut pas les lieux communs, mais plutôt par sa sculpture éclatée, par sa déconstruction progressive. La pièce tient plutôt du discours, de la déclamation à plusieurs voix, dans un tout dont on chercherait en vain le fil, si ce n'est dans la première partie, et résistant par moments à la compréhension. Christian Lapointe, ça c'est lui qui a fait l'adaptation et la mise en scène, le travail le montre, affectionne les formes qui poussent le théâtre à ses limites. Il trouve chez Crimp, c'est l'auteur de la pièce, à l'évidence un formidable terrain de jeu. Outre la scénographie colorée et clinquante qui tranche avec les univers auxquels nous a habitués le metteur en scène, Lapointe fait ici, comme souvent, appel à de multiples canaux pour transporter le discours. Projection, micro, vidéo en direct et manipulation de figurines représentant les personnages. Omniprésence de l'image, prolifération du moi, de ses idées et de ses angoisses envahissant l'espace, sur fond de couleur, en un festival de l'excès et du décalage, créant parfois des images surréalistes. Les comédiens galvanisés se font les interprètes remarquables de cette cérémonie étrange. On peut aimer ou détester ce genre de proposition, qu'elle interroge ennui ou enthousiasme, elle a cependant le mérite de déstabiliser et de susciter la réflexion. Elle offre au regard un objet théâtral inusité, tentant à la fois, tenant à la fois du carnaval, de la technologie, de la rigueur et du désordre, et prouve une fois de plus que Christian Lapointe est rarement là où on l'attend. Ce spectacle est au Théâtre Trident à Québec jusqu'au 7 février et à la 5e salle de la Place des Arts du 19 au 28 février. On vient d'entendre Black Tambourine de Beck.
Et puis, Jennifer, est-ce que Sam Smith joue lui aussi du tambourin noir?
Ben écoute, non, mais par contre, il est passé cette semaine sur... il a fait un concert, en tout cas, à Montréal, et visiblement, il a beaucoup plu, vêtu d'un costard élégant et armé de son charme. Oh. Sam Smith, super sensation britannique, a fait résonner sa suave voix à Montréal. Et c'est Natalia Wizoka qui nous en parle dans le métro du 20 janvier. C'est arrivé tellement vite. J'ai fait un de mes premiers concerts il y a un an et demi devant 200 personnes. Aujourd'hui, je suis devant vous à rappeler l'artiste british avec émotion. Et c'est vrai que Smith a pris la voie express vers la reconnaissance planétaire. Sorti presque de nulle part après avoir chanté sur Latch, une pièce du duo Electro Disclosure, le jeune homme de 22 ans a séduit les foules avec ses tubes parmi lesquels l'omniprésent Say Something. Même si vous ne pensez ne l'avoir jamais entendu, soyez presque en assurés, oui, vous l'avez entendu. Qualifié à répétition de Adèle masculin, le phénomène a été sur toutes les ondes au cours des derniers mois. Hier soir, sur la scène du Centre Bell, c'est sur la scène du Centre Bell qu'il était. Placé au départ derrière un rideau transparent, il est apparu debout sur un socle, au son des premières notes de Live Support accompagné d'un trio de choristes. Côté instruments, ils étaient cinq, clavier, batterie, guitare, basse et violoncelle électrique. Belle sélection. Une fois le rideau tombé, le chic crooner a guidé les fidèles de chanson en chanson, s'arrêtant pour raconter des histoires, mentionner ses multiples nominations au Grammy, et dire son étonnement de nous voir si nombreux. Sourire en coin, il a également procédé à quelques précisions faisant allusion à une question qui lui est souvent revenue en entrevue, à savoir « Sam, est-ce que tu vas écrire de la musique triste toute ta vie ?» La réponse est non. Je ne suis pas une personne triste, je suis même heureux, mais ma musique est le documentaire de ma vie. L'ensemble était soigné, classe, à l'image de celui qu'on était venu voir. Au fil des pièces, Sam a promis de nous aimer comme je peux. Like I Can a chanté sa préférée Leave Your Lover et s'est moqué de lui-même et des tentatives de composition qui ont précédé son triomphant premier album In the Lonely Hour. Ça sonnait comme un mix de Dolly Parton et de Lady Gaga. Dans un moment plus intime, qui lui a rappelé ses débuts, il a interprété Lay Me Down, accompagné uniquement de son pianiste, Ruben James. Puis dans le romantisme du violoncelle, il est passé à My Funny Valentine, pièce où l'on a pu apprécier toute l'étendue de sa voix. Notons aussi qu'après la plus enjouée La La La, succès de Naughty Boy auquel Sam a collaboré, il a balancé Money on My Man, son fuck you aux gens qui font de la musique pour les mauvaises raisons. Tout ça sans oublier qu'il est revenu sur ses peines de cœur et a demandé à la foule « Est-ce que quelqu'un ici a déjà aimé une personne qui ne l'aimait pas en retour ? Moi, oui. » Hier pourtant, ils étaient des milliers à lui redonner tout leur amour. Parler après d'avoir parlé musique, on va retourner en théâtre, reconnu pour abriter chaque printemps les auditions bien réelles du Katsu. L'établissement convie cette fois-ci le public à des essais fictifs menés par une metteur en scène tyrannique. La pièce Audition Me, Myself and I décortique les rouages de la création théâtrale jusqu'au 31 janvier. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures du 20 janvier. J'avais envie de traiter Shakespeare et de la question du pouvoir au théâtre, explique la metteur en scène franco-allemande Angela Conrad. Campée dans la salle de répétition du théâtre, la production met en relief les relations de pouvoir et de séduction entre une metteur en scène, Ricky, et les acteurs. Sans merci et assoiffée de pouvoir, cette dernière évoluera dans le même sens que le personnage shakespearien de Richard III. Tout comme lui, elle deviendra le principal obstacle à sa propre réussite, se laissant dominer par ses névroses. Elle terminera sa course seule avec un projet théâtral avorté. Je pense que le spectacle est une sorte de miroir de la situation actuelle de la production, de la création théâtrale, mais au-delà de ça, la pièce parle surtout des relations humaines sur un lieu de travail, précise-t-elle. À partir du moment où l'ego, les névroses, l'argent et le pouvoir s'entremêlent, tout devient prétexte pour finalement ne pas aboutir à un projet qui a d'abord été porté par une communauté. La comédienne Dominique Quesnel tient le rôle titre et sera entourée par Marie-Laurence Moreau, Stéphanie Cardi, Philippe Cousineau, Lise Roy et quelques invités spéciaux. Mis à part pour la comédienne Lise Roy, Angela Conrad collabore avec la même équipe que sa dernière production présentée à l'usine C, Variation pour une déchéance annoncée. Je pense qu'on ne voit pas souvent les acteurs autant exposés, ça demande beaucoup de générosité de leur part et une certaine prise de risque, comme ils seront vraiment très près du public et qu'ils seront vus à 360 degrés, fait-elle remarquer. Donc je reprécise qu'Audition on Me, Myself and I sera jusqu'au 31 janvier au Théâtre du Katsu.
Mathieu Amalric s'est toujours vu d'abord et avant tout comme un réalisateur. Sa fulgurante carrière d'acteur, ponctuée de 3 Césars, l'a toutefois maintenu éloigné de la réalisation. Trop longtemps. La Chambre bleue vient encore une fois de confirmer son talent, l'acuité de son regard de cinéaste et sa capacité de transformer un polar tout simple en un drame passionnel prenant qu'il mène d'une main de maître. Ce sont les mots de Éric Moreau du Soleil, La Chambre bleue, les amants maudits. C'est paru le 17 janvier. Ça parle d'un film qui sera dans vos salles présentement, La Chambre bleue. Il est clair que le prix de la mise en scène remporté à Cannes en 2010 pour Tourner n'était pas un accident. Et quand Amalric, c'est son nom, préconise un style simple et dépouillé, mais dont les plans, souvent superbes, sont chargés de sens. Une simple abeille sur un ventre de femme dans la très sensuelle ouverture devient un motif chargé de sens. Le spectateur commence peu à peu, grâce aux interrogatoires croisés de la police, d'un juge d'instruction et d'un psy, à recoller les morceaux d'une affaire sombre et mystérieuse, presque sans crime et sans coupable. Les émotions, même indistinctes, sont vives. Julien semble pris dans un engrenage qui l'a happé et qui est en train de le broyer vivant alors qu'il se décompose progressivement. En optant pour un récit non linéaire et des ellipses, le réalisateur français a volontairement voulu brouiller les pistes. Il signe une adaptation contemporaine très réussie avec sa compagne Stéphanie Cléo du roman du même nom de Georges Siméon. Tout est sujet à interprétation jusqu'à la toute fin. Réaliste. Amalric a choisi une mise en scène très réaliste avec des figurants locaux, notamment au tribunal. Ce qui confère un aspect véridique à ce polar à la sauce Chabrol, conçu comme un exercice de style volontairement désuet. Mais il signe aussi de superbes scènes d'amour dans cette chambre bleue où se rencontrent les amants maudits, composant corps enlacés, immobiles et mouvements lents, comme de véritables tableaux. Le talent de cinéaste d'Amalric est évidemment aidé par la compréhension intime du jeu. La fragilité de Julien, son regard parfois halluciné, parfois inquiet, et sa descente aux enfers sont parfaitement rendus par l'acteur, qui joue d'ailleurs dans Le scaphandre et le papillon. Cléo réussit à faire effleurer la folie d'Esther avec justesse. Le rôle de Léa Drucker, en femme soumise, mais pas dupe, est plus ingrat, mais elle s'en sort très bien. La passion qui se transforme en obsession, moteur narratif de La Chambre bleue, fait inévitablement penser à Liaison fatale de Ariane Lane, paru en 87. Il s'agit du même genre d'érotomanie, la violence en moins. Vraiment, rien n'est moins sûr. Personne ne va voir le même film, ce qui en fait sa principale qualité. Et il y en a plusieurs. Alors, La Chambre bleue, c'est dans vos salles partout. Et c'est une réalisation de Amalric.
Sango me ohanga, angunga ngosi.
Une chanson ensoleillée comme le beau soleil qu'on a ce matin à Montréal, c'était Angoa de Juanito Agresiva.
Jennifer, on reste en cinéma, mais cette fois-ci, oui. On tombe dans un trailer. En fait, on reste un peu dans le cinéma noir, disons.
Oui,
là.
Oui, c'est un thriller, une autobiographie sur Pablo Escobar.
Okay.
Marilyn Le Tête nous en parle dans le journal du Métro du week-end dernier. Benicio del Toro semble vouloir se spécialiser dans les figures cultes de l'Amérique latine. Après avoir incarné le Che pour Steven Soderbergh en 2008, l'acteur d'origine portoricaine devient Pablo Escobar, icône criminelle des cartels colombiens, dans Escobar Paradise Lost, le premier film de l'acteur télé italien Andrea Di Stefano. Mais attention, ce film n'est pas un biopic, insiste Benicio, un divertissement, un thriller psychologique centré sur la relation entre Escobar et un Américain pris dans ses filets. Le roi de la cocaïne n'est en effet ici qu'un personnage secondaire, l'action tournant plutôt autour de Nick, jeune touriste qui, en tombant amoureux de la nièce du trafiquant, se retrouvera malgré lui enrôlé dans une spirale criminelle. Cette relation est l'occasion d'aborder Escobar sous un angle différent et de celui de la biographie. On capte des bribes de sa personnalité et de sa vie dans la sphère politique, familiale, mais aussi dans ses activités criminelles, nous raconte l'acteur qui a dévoré des livres, des archives et des documentaires pour comprendre son personnage. « Je ne ressens ni empathie ni haine envers lui », insiste le comédien. « Juste de la pitié. C'était un homme très intelligent qui a gâché son talent et son énergie en les mettant au service du mal. Mais il n'était pas qu'un monstre. Si l'origine de son argent et la plupart de ses actes sont condamnables, il a aussi beaucoup œuvré pour aider les plus pauvres qui, en Colombie, le considèrent souvent comme un héros, un protecteur du peuple. » Donc je rappelle que le film Escobar Paradise Lost est en salle depuis maintenant quelques jours, donc allez le voir.
Oui, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo il y a quelques jours fait encore résonner. Et c'est le cas de le dire, puisqu'il y a 60 écrivains, Geneviève, qui se sont réunis pour la liberté d'expression. Ça s'inscrit un peu dans cette mouvance-là.
Oui, exactement. Donc, la nouvelle est sortie ce matin dans le Journal de Montréal. La maison d'édition Le Livre de Poche va publier le 5 février prochain un recueil collectif intitulé « Nous sommes Charlie ». Qui réunit autour de la liberté d'expression 60 écrivains classiques ou contemporains, et l'intégrité des bénéfices va être reversée à Charlie Hebdo. Mmh. On parle d'un ouvrage de 168 pages, vendu 5 euros en Europe ou 7 dollars ici, qui mêle des textes classiques fondamentaux sur le sujet, mais aussi des contributions inédites d'auteurs contemporains qui ont été écrites après le drame de Charlie Hebdo. C'est ce qu'a précisé la maison d'édition. Et puis, le livre de poche souligne également que la richesse des contributions réunies témoigne du remarquable élan suscité par ce projet. Puis face à la tragédie, des voix se sont élevées contre la barbarie qui a voulu mettre à genoux la liberté d'expression. C'est la volonté de les rassembler en un recueil qui est née l'idée de cet ouvrage dès le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo. On y retrouve des contributions de philosophes tels que André Comte Sponville, Jean-Paul Enthoven, Bernard-Henri Lévy, des historiens comme Elisabeth Roudinesco, et qui est également psychanalyste, mais aussi de journalistes et écrivains comme Caroline Fourret, Serge Raffi ou Christophe Onodibio. Donc, on parle d'une grande solidarité parce que les romanciers sont également nombreux à participer à l'ouvrage, comme Philippe Claudel, qui est également cinéaste, Didier Van Coelert, en passant aussi par Maxime Chatan, Véronique Olmy, Tatiana Desrosnais, oui, Dominique Fernandez, Charles Denzig, Catherine Pancol et bien d'autres. Et à leur côté, il y a également des textes de Diderot, Victor Hugo, Voltaire, dont est publié un extrait du Traité de la tolérance. Alors, grâce à la solidarité de toute cette chaîne du livre, le livre va bénéficier d'une diffusion plus large. C'est ce qu'a assuré la maison d'édition Le Livre de Poche.
Alors, c'est dans nos librairies dans un peu de temps?
Exactement, le 5 février prochain. Et puis, un bel exemple, un beau mouvement de solidarité pour, on se rappelle les événements survenus, les tristes événements survenus le 7 janvier dernier.
Merci Geneviève. À Québec, jusqu'au 2 mars, 18 villes au Québec, partout au Québec, les villes du Québec accueillent la tournée mondiale du Festival de films de montagne de Banff. Avoir 9 courts et moyens métrages avec des sous-titres en français, mettant en vedette aventuriers accros l'adrénaline, oui, et passionné de plein air, parti explorer les crêtes de l'Écosse à vélo, les couloirs de neige de l'Alaska en ski ou les vagues de l'Arctique en surf. C'est l'occasion d'admirer des images et des personnages spectaculaires, rapportés des coins souvent méconnus de la planète. De toutes les villes s'ajoute cette année à la tournée la ville de Joliette, celle de Gaspé et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est à 18 villes au Québec. Plus d'informations sur banffquebec.ca. On se laisse le temps d'une courte pause et on vous revient tout de suite après avec encore plus d'articles. À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
En cirque, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe à Montréal avant le festival complètement en cirque. Eh bien, voici un article dans Le Devoir. Je ne lirai pas tout parce qu'il y a des dates qui vont jusqu'à l'été. Je trouve ça un peu exagéré d'en parler maintenant. Mais je vais vous lire la moitié de l'article. C'est très court. C'est écrit par Louise Maude Rioux-Soucy dans Le Devoir, paru le 17 janvier. Chauffer les mécaniques. La bise venue, le monde du cirque roule plus modestement ses mécaniques au Québec, huilant ses rouages et distillant ses charmes en prévision du faste estival. Voici réunies quelques étincelles choisies avant que n'explose le feu d'artifice de Montréal complètement cirque, qui prendra l'assaut la métropole du 2 au 12 juillet. Flip fabrique sur la route, Circus Oz de retour. L'année circassienne débute comme la précédente a terminé, avec les acrobaties de la troupe Philippe Fabrique. Lancé à la Tohue en décembre, le spectacle Attrape-moi poursuit son périple à travers le Québec avant de s'envoler pour New York en mars. Donc, c'est une occasion d'aller le chercher. La troupe australienne Circus Oz, quant à elle, revient à la Tohue juste à temps pour la relâche scolaire avec une création complètement en circulaire. Satire inspirée de travers du monde moderne, But Wait, There's More, c'est comme ça qu'est intitulé le spectacle, mise sur une approche déjantée pour la forme et engagée pour le fond. Autrement, lancé à New York en 2012, le spectacle Empire, niché sous le chapiteau décoré de miroirs biseautés et de baquettes de velours, mélange cirque, cabaret, variété et burlesque. La machine qu'on dit bien huilée arrive auréolé de cirque de critiques élogieuses. C'est à Québec à partir du 1er avril, puis à Montréal à partir du 15 avril. Et puis finalement, un pied de nez à la gravité, jolie découverte parmi la programmation 2014 de Montréal complètement cirque, A Simple Space de la bande australienne Gravity and Other Myths. J'adore le choix du nom de cette troupe-là, ramène son audace, son adrénaline. Voyons, c'est pas la première fois que je bute sur ce mot-là. Qu'est-ce qui se passe?
C'est pas facile.
Non, c'est ça. Non, c'est pas facile ce matin.
Comme le cirque.
Oui, exactement. Ce spectacle-là ramène son audace, oui, et sa fraîcheur à la Tohue. C'est du 15 au 18 avril. C'est une occasion à ne pas manquer.
Thank you. matin aux mains de soie, disparu dans la cohorte. Que ferais-je, ma belle, sans toi? Rideau rouge comme seul décor, une arène sans décorum. Il faut manier les efforts, petit homme, chapeau de forme. Unijambiste aux aguets, grand guignol dépossédé, femme de joie qui se dévait d'un si joli décolleté.
C'était Yves Derosier qui nous interprétait Circus. On va tout de suite partir au théâtre Corona, parce que intitulé simplement Mon Show, l'humoriste Corinne Côté présente son premier one-woman show en 8 ans de carrière, un spectacle dépouillé, sans artifice, où toute l'attention est mise sur les textes et la performance scénique. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le journal du 24 heures de ce week-end. Comme je n'ai pas de sujet thématique dans le spectacle, je n'avais rien de concret pour l'annoncer et en même temps je voulais un titre 5, explique-t-elle. Cette dernière abordera plusieurs sujets passant de la Coors Light aux émissions de cuisine, sans oublier les restaurants, les bagels du Tim Hortons, sa mère et elle-même. Celle dont l'autodérision est maintenant bien connue du public québécois avoue se tomber elle-même sur les nerfs. Je suis incapable de me regarder en spectacle. En ce moment, je n'ai pas le choix de le faire et je trouve ça épouvantable. Tout m'énerve, ma voix, ma façon de bouger, mes tics. Néanmoins, la scène est pour elle un véritable exhaustoire, un espace de liberté. C'est le seul endroit où on n'a pas de censure, où l'humoriste peut être à son plein potentiel, précise-t-elle. Corinne Côté est une fille simple et son show est à son image, avec comme seul élément de décor un tabouret et qu'elle-même s'est fabriqué. C'est vraiment un spectacle de stand-up, fait-elle valoir. Pour l'accompagner dans cette grande aventure, elle a pu compter sur son bon ami l'humoriste Alexandre Barrette, bien que celui-ci ait de prime abord refusé à deux reprises de signer la mise en scène. J'ai dû lui demander trois fois avant qu'il me dise oui. Il n'avait jamais fait ça et je pense qu'il avait un peu peur de ne pas être à la hauteur des besoins. Finalement, je trouve qu'il fait un excellent travail, précise l'humoriste. C'est donc ce lundi que Corinne Côté fera sa grande rentrée montréalaise au Théâtre Corona, après un dernier spectacle de rodage prévu ce samedi à la Maisonneuve de la Culture, Maisonneuve. Donc ça s'appelle Mon Show, Corinne Côté, les 26, 27 et 29 janvier au Théâtre Corona à 20h.
Alors, dans l'article que nous a lu Jennifer tout à l'heure, Corinne Côté parlait justement de restaurants, de nourriture, et puis elle joue au Théâtre Corona. Et puis souvent, les gens avec une bonne bière, ils ont envie également de manger des hot dogs. Et ça tombe bien parce que, à Montréal, après la semaine de la poutine et celle du burger, maintenant, on va accueillir la semaine du steamé. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 janvier prochain. Et puis, on en parle dans le journal 24 heures et le journal Métro. Et justement, l'instigateur de cette semaine-là, un des instigateurs, oui, Joshua Davidson, dit que tout le monde a des souvenirs autour d'un stimé. Quel est votre souvenir, Jennifer et Charles, autour d'un stimé?
Moi, mon souvenir de stimé, ça se raconte pas vraiment, en fait.
Secret.
Oui, non.
C'est ça, secret.
Ça a mal tourné, en fait, là. J'en mange plus, c'est pour vous dire. Toi, Jennifer.
Bah, c'est un secret aussi. Je crois que là, il va falloir que tu nous donnes des adresses,
oui,
des petites idées.
Parce que justement, des idées, voilà, parce que il y a des idées. Il y a plusieurs endroits à Montréal pour faire la tournée des hot dogs steamés. C'est Simon Dessureau, journaliste au 24 heures, qui est parti à la recherche du meilleur hot dog steamé à Montréal. Il y aurait le casse-croûte normand. Il lui a donné 5 sur 5. C'est sur la rue de Verdun. Et puis, il y a beaucoup de gens dans ces quartiers, des gens locaux, qui ont raconté des anecdotes à propos de leurs souvenirs de dog steamé. Il y a justement Monsieur Villemaire au casse-croûte normand qui dit que c'est le meilleur endroit à Montréal pour manger un classique moutarde chou parce que leurs hot dog moutarde chou sont bien garnis et bien steamés. Le pain n'est pas mouillé et la saucisse est très goûteuse. Je pense effectivement pour un dog steamé, c'est la base. Et puis saviez-vous que l'inventeur du hot dog steamé, ce serait Nathan N. Werker, j'espère que je prononce bien son prénom, et son nom de famille, oui, un immigrant juif de Pologne qui était venu s'établir à Coney Island dans le quartier Brooklyn à New York au début des années 1900. Et c'est lui qui est considéré comme l'inventeur du hot dog steamé. Il a fondé la compagnie Nathan Famous, une chaîne de restauration rapide américaine spécialisée dans la préparation et la vente de hot dogs. C'est en 1916 qu'il a ouvert la première baraque à hot dog, Nathan Famous.
Est-ce que dans le temps, c'était des chiens qui prenaient pour faire la saucisse? Est-ce que c'est là que vient hot dog?
Je
non, c'est ton article précise, non?
L'article le précise
ah,
pas.
Ah bon, OK.
Par,
ben, mystère et boule de
gomme. Mystère et boule
c'est
de
mieux
gomme.
De ne pas le savoir,
ah,
je
non,
crois.
Oui, je pense. Oui, en effet. On a tendance à l'oublier, mais l'alphabet latin est constitué de 26 petits dessins. Évidemment, la plupart d'entre nous ne les voient plus, on les lit, puis il n'y a pas de problème. Sauf peut-être les artistes en art visuel qui les portent pas dans le même genre, qui portent pas le même regard, en fait, sur ces lettres-là. Et quand on en a pleinement conscience des lettres, que ces lettres sont des dessins, on se dit qu'elles auraient dû peut-être être complètement différentes. À Sherbrooke, c'est une exposition qui s'appelle... Bon, ça y est, j'ai pas le nom d'exposition sous les yeux. Oui, ça s'appelle « Le projet Code Couronne ». C'est un article de Steve Bergeron paru dans La Tribune. « Lire la peinture et regarder l'écriture ». C'est publié le 22 janvier. Pourquoi pas mettre des couronnes qui changent de couleur selon le son qu'elles représentent? Hein? Pourquoi pas? Tel est le projet du code Code Couronne imaginé par Kozik en 2006 et qui occupe en ce moment les murs de la galerie d'art du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Kozik, ce n'est pas un, mais bien deux artistes. En plus de former un couple dans la vie, Monique Brassard et Yvon Kozik créent ensemble depuis 45 ans. Leur synergie est telle qu'ils considèrent Kozik comme un artiste à part et différent d'eux-mêmes. Ils n'ont d'ailleurs pas de démarche créative individuelle en parallèle. Lorsqu'on regarde les hiéroglyphes, les runes, les écritures japonaises et chinoises, on a pleinement conscience qu'il s'agit de dessins, dit Monique Brassard. Nous avons donc imaginé une nouvelle façon d'écrire qui pouvait nous permettre de redécouvrir l'écriture par le dessin. Il faut nous dire que nous aimions aller chercher des éléments loin des arts visuels et pour leur faire dire autre chose. L'idée des couronnes nous est venue lorsque, dans une salle d'attente, nous sommes tombés sur un livre de cotes minières à la bourse, représenté par des graphiques circulaires, des pointes de tarte. En les apercevant au centre, nous avons trouvé nos couronnes. Nous avons ensuite associé une couleur à chaque type de lettre. Le rouge pour une voyelle, le violet pour une consonne labiale, le noir pour une dentale. Il ne restait plus qu'à écrire des mots. Lesquels? Le couple ouvre une boîte de grands titres de journaux découpés à cause de leur résonance, tels « Le mot qui rend fou » ou « L'auto pollue davantage que les vaches ». Ou peut-être on aurait pu prendre le titre de ton article, Geneviève, sur
les hot dogs,
oui.
À la recherche du meilleur hot dog estimé à Montréal.
Oui, peut-être ça aurait été un bon point de départ. Ben, grâce à cette pige-là, les visiteurs peuvent associer un titre à chaque dessin. Chacun peut ainsi se créer une image ou une histoire, conclut Monique Brassard, qui se réjouit de l'aspect ludique et participatif de l'exposition. Quant à leur association émotive, elle est devenue toute naturelle avec les années. Nous n'en avons plus vraiment conscience, dit M. Kozik. Nous pensons à deux têtes et nous créons à quatre mains. On ne peut pas dire si c'est Yvon ou Monique qui a réalisé telle ou telle œuvre. Notre art est devenu le prolongement de notre rencontre et comme notre couple, il continue d'évoluer. Nous essayons d'avoir le même regard. Mais il faut continuer à nous surprendre nous-mêmes et accepter les surprises qu'on nous fait. C'est le projet Code Couronne. C'est à la Galerie d'art CCCUS de l'Université de Sherbrooke jusqu'au 22 février.
Alors, on va rester en art oui. visuel avec, cette fois-ci, une technique atypique de l'artiste Steven Spazuk de Léry au Québec qui attire présentement l'attention de plusieurs médias internationaux. En effet, M. Spazuk, dont la vidéo Far Painter a été vue plus de 870 000 fois, ne s'attendait pas à cet engouement. C'est Valérie Gagnon qui nous en parle dans le journal du Métro du jeudi 22 janvier. Le jour de la mise en ligne, on a eu des centaines de visionnements. Le lendemain, 1000, puis 6000. On était vraiment contents, relate l'artiste. C'est grâce à cette courte vidéo de présentation réalisée par Patrick Perry, spécialiste de la macrophotographie, que Spazuk a su se faire voir sur le web. Sa technique originale est pour quelque chose dans ce succès. Spazuk crée des images avec la suie produite par la flamme d'une chandelle sur du carton. Récemment, une équipe de tournage japonaise a bravé le froid de l'hiver québécois pour atterrir dans l'atelier de Steven Spazuk. Les concepteurs de l'émission de télé Maximum Level étaient impressionnés par son style et lui ont demandé de créer plusieurs portraits grand format de la pop star Yuko Oshima. Spazuk n'en était pas à sa première expérience avec le Japon puisque le portrait de son père a voyagé dans une métropole nippone, ville sœur de Toronto, dans le cadre d'une exposition collective. « J'ai toujours pensé que j'aurais un certain succès au Japon avec le type de dessin que je fais », indique-t-il. « Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'esthétique qui peut séduire les Japonais pour ce que je connais de leur art. Il y a des similitudes dans le geste. » L'artiste présentera une nouvelle exposition à la galerie COA à Montréal du 24 janvier au 7 février, centrée sur le thème de l'ornithocide. Je le dis bien, okay. L'ornithocide, c'est des espèces d'oiseaux qui disparaissent. On voit de moins en moins d'oiseaux, c'est parce qu'on voit de moins en moins d'insectes, explique Spazuk. L'artiste compte illustrer la disparition de différentes espèces en créant des images percutantes nées du feu. Donc je rappelle que c'est à la galerie COA et c'est dès samedi, ça dure jusqu'au 7 janvier. Voilà, Spazuk, allez le voir.
Embola a bola, embora sem rebolar. 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 Passo nessa vida como passo na avenida, entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de um falso alento eu me deito esperando, sorrindo ou xingando, o que jamais teceu-me consideração, dança quem marcou, eu não. Caterete paê, caterete, caterete. Cate, caterete paê, caterete, caterete, cate. Embola a bola, embora sem rebolar. 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 Passo nessa vida como passo na avenida, entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de um falso alento eu me deito esperando, sorrindo ou xingando, o que jamais teceu me consideração, dança quem marcou, eu não. Caterete paê, caterete, caterete. Cate, caterete paê, caterete, caterete, cate, caterete paê.
Et donc c'était Javan qui chantait Embola Bola.
Gina Bouchard, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, expose pour, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, elle expose des œuvres qu'elle, à partir de matériaux qu'elle trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Alexandra Perron nous en parle un peu plus dans Le Soleil. Gina Bouchard, faire du bois de grève, des épaves, bijoux. C'est publié le 21 janvier. Gina Bouchard cueille sa matière première sur les grèves du fleuve Saint-Laurent du lac Saint-Jean. Déjà, ces morceaux de bois façonnés par l'eau, le sel, le sable, le vent sont beaux en soi. La sculpteur les magnifie en y insérant du métal pour en faire des épaves, bijoux, à la fois fragiles et précieuses. On l'a pu la découvrir, Mme Bouchard, il y a 2 ans au Salon des métiers d'art de Québec. Elle a reçu le prix du jury dans la catégorie relève coup de cœur du public pour ses créations organiques. Lancée en 2012, dans sa seconde carrière, Gina Bouchard présente ces jours-ci l'évolution de son travail à la bibliothèque Étienne Parent. L'exposition est intitulée « Ressac, mémoire de bois », qui fait découvrir une quarantaine d'œuvres, la plupart encadrées dans un écrin d'acrylique bleu intense. Dans ma cueillette, je suis beaucoup inspiré par la spiritualité autochtone qui veut conserver l'équilibre. Prendre à la terre, redonner à la terre. J'apporte donc avec moi des sacs de poubelle et je ramasse les déchets quand je marche sur la grève, raconte Gina Bouchard. Ces traces laissées par l'homme, elle y fait d'ailleurs référence dans son œuvre « Débordement à Rapa Nui » à l'île de Pâques. Elle nous rappelle que ce lieu perdu au large de la côte chilienne dans l'océan Pacifique attire chaque année 800 000 touristes et que leurs déchets menacent ce paradis. L'artiste travaille de sa maison au lac Beauport, où elle garde des morceaux de bois mesurant jusqu'à 14 pieds de long. Quand même, hein? ramener ça à pied, c'est peut-être pas une bonne idée. Éventuellement, elle aimerait produire des œuvres plus grosses et construire un vrai atelier où elle pourrait faire la soudure, bref, évoluer et aller plus loin dans sa démarche. C'est présenté jusqu'au 8 février à la Société d'art et d'histoire de Beauport.
Alors, on s'en va tout de suite donc pour les brèves. Oui. Et alors, moi, il y a un album que j'aimerais bien vous conseiller parce que je l'adore beaucoup. C'est la jeune artiste Megan Trainor qui a sorti son tout nouvel album intitulé Title, justement, qui comprend les chansons à succès All About That Bass et Lips Are Moving. On retrouve un son pop qualifié de rose bonbon et un R&B qui sait plaire à un auditoire grand public. Megan Trainor a été propulsée au sommet des palmarès par ses textes féministes, toujours teintés d'humour et des rythmes ressemblant à la musique de la défunte Amy Winehouse. On aime Title pour ses mélodies entraînantes qui mettent et qui sentent la bonne humeur. Voilà, c'est sorti déjà, donc allez-y, écoutez-le.
On est vendredi aujourd'hui, donc c'est la fin de semaine qui arrive. Et dans le 24 heures, il y a l'article « Je sors ou je reste à Montréal ». Il y a une pièce de théâtre intitulée « Les laissés pour compte ». Alors, tout le monde a déjà eu peur dans sa vie et ce sentiment est bien ancré en nous. Et c'est ce que nous montrent les 6 personnages de la pièce « Les laissés pour compte ». Pour chacun d'entre eux, la peur se manifeste de manière différente et c'est par le jeu des acteurs et les histoires variées que l'on comprend la vraie nature de la frousse. Les spectateurs auront droit à toutes sortes de scénarios où la panique, l'angoisse, la trouille, le vertige et le trac ne font qu'un. C'est jusqu'au 26 janvier et ça a débuté hier soir à 19h30 à l'usine C.
En Montérégie, le froid ardent, les différentes patinoires du canal de Chambly sont désormais ouvertes au public. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 tronçons glacés, respectivement d'une longueur de 500 mètres et de 1,5 km, sont accessibles gratuitement près du pavillon de la jeunesse et sur le site de l'écluse numéro 9. Les 2 patinoires sont équipées de roulottes chauffées. À Chambly, une patinoire de 400 mètres, aussi avec roulottes chauffées, est aménagée près de l'écluse numéro 4.
Un tramway nommé Désir au théâtre Blanche Dubois s'installe chez sa sœur pour quelque temps, question de se remettre de la perte de la maison familiale. La durée du séjour s'annonce plus longue que prévu et Blanche découvre la relation malsaine que vit sa sœur avec son mari contrôlant. Stanley Kowalski est un bel ouvrier d'origine polonaise, mais c'est un mari violent. La présence de sa belle-sœur dans la maison dérange la dynamique entre lui et sa femme. L'homme manipulateur se donne pour objectif de découvrir les secrets de la nouvelle intruse qui cache un passé plus lourd qu'elle ne laisse paraître. Un tramway nommé Désir est une histoire écrite par Tennessee Williams qui fut jouée pour la première fois au théâtre en 1947. Dorénavant, c'est joué maintenant en 2015 et ça commence ce soir à 19h à l'Espace Go.
Ben, merci Jennifer Vignery, merci Geneviève Patterson. Je m'appelle Charles Roy, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Je remercie Rémi Hermoso à la régie.
Merci Rémi.
Et puis on se retrouve
vendredi
prochain.
Merci à tous, à la semaine prochaine.
Bonne
prochaine
et bonne
émission. Fin de semaine.